Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La meilleure façon de marcher, mettre un pied devant l'autre et recommencer. Pas si sûr que les paroles de cette comptine populaire suffisent à vraiment bien marcher. Car en la matière, on peut apprendre ou plutôt réapprendre à marcher en intégrant des modifications a priori simples, mais qui peuvent changer beaucoup. Car notre façon de marcher peut entraîner diverses douleurs qui affectent les muscles, les articulations ou encore le squelette. Ces problèmes peuvent se traduire de façon visible et nécessitent une prise en charge pour éviter des lésions irréversibles. Réapprendre à marcher peut être aussi imposé par un accident de la vie ou une maladie chronique, une opération, une chute, une déformation de la colonne vertébrale. Réapprendre à marcher et savoir aussi se tenir debout et assis en épargnant son dos comme son système veineux, bannir les piétinements, changer de chaussures, préserver ses genoux et en profiter pour corriger un certain nombre d'idées reçues. On l'a compris, la meilleure façon de marcher, ce n'est pas une histoire de cadence, c'est une expérience, un apprentissage singulier pour retrouver le plaisir de marcher, cette ressource essentielle contre la sédentarité. Bien marcher en écoutant notamment vos conseils, Jacques-Alain Lachan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ostéopathe responsable de la consultation sur la marche à la clinique du Mont-Louis à Paris, auteur de « Bien marcher, ça s'apprend », publié aux éditions Payot Santé. Tout à l'heure, nous serons en ligne du Congo, où nous retrouverons le docteur Emmanuel Koutaba, chef du service chirurgie pédiatrique au CHU de Brazzaville. Mmh. Et puis nous donnerons aussi la parole à Jamel Bouabi, podologue, président de l'Union française pour la santé du pied, pour poser vos questions. On attend bien sûr vos appels au 33 1 84 22 75 75. Et en fin d'émission, on va retrouver notre bulletin de santé avec aujourd'hui à la une la fin des vaccinations contre le virus Ebola dans la grande ville de Mbandaka en République démocratique du Congo. Et en France, la forte réduction du déficit de la sécurité sociale et même perspective d'un possible excédent dès l'an prochain.
Priorité santé sur RFI.
Jacques-Alain Lachan, pour commencer ce tour d'horizon des bonnes façons de marcher, eh bien, on va s'arrêter sur le tout premier des 100 conseils que l'on trouve dans votre livre. Mm-hmm. On va dire le béaba de la marche, pieds nus, pieds chaussés. Qu'est-ce que ça change ?
Ça change tout parce que dans la chaussure, le pied est relativement passif. Il est un petit peu comme dans un lit douillet. Et il n'est pas très actif, en fait. Les orteils sont très peu actifs dans une chaussure. Par contre, dès que l'on se met pieds nus, le pied est obligé de porter l'ensemble du corps, et prudemment, puisque le pied ressent toute la qualité du sol, les aspérités, la température, le grain, et notre pied ne peut pas se permettre d'être endormi. Donc le pied nu, le mouvement de soutien du corps n'est pas le même que chaussé.
Quand vous recevez vos patients en consultation, vous leur conseillez de marcher pieds nus, votre cabinet, votre lieu de consultation, justement, c'est un endroit où l'on peut marcher pieds nus ?
Bien sûr, bien sûr. Donc je les observe en train de déambuler avec chaussures et sans chaussures. En fait, le chaussage est une vraie question difficile pour nous praticiens et pour les commerciaux des boutiques de chaussures, parce que les patients posent souvent cette question. Docteur, qu'est-ce que je dois mettre au pied pour aller mieux, pour moins souffrir? Et il n'y a pas de réponse
toute faite
idéale. En règle générale, moi je dis toujours, explorez les chaussures avec lesquelles vous avez été le mieux, celles que vous n'avez pas voulu jeter, et analysons pourquoi. Pourquoi avec cette paire de chaussures-là vous étiez bien. Il faut arriver à qualifier le confort. Sinon, on est dans une espèce d'abstraction, on ne peut pas donner de conseils vraiment concrets.
Est-ce que vous constatez peut-être aussi, Jacques Alalachon, c'est qu'avec l'âge, les gens marchent de moins en moins pieds nus, alors que finalement, marcher pieds nus, c'est plutôt bon pour la santé?
Absolument. Donc, surtout avec l'âge, les seniors utilisent souvent des chaussures ou des chaussages à la maison qui sont un peu dangereux, comme les mules, les chaussons non fermés à l'arrière.
Qui risquent de provoquer des chutes.
Et donc ils traînent les pieds, ils peuvent chuter absolument. Les chutes, c'est quand même le risque majeur chez les seniors.
Jacques Alalachon, est-ce qu'il y a des douleurs qui se diagnostiquent au premier coup d'œil ou des défauts en regardant justement quelqu'un marcher? Quand vous voyez quelqu'un qui marche, est-ce que vous n'avez pas d'ailleurs un peu ce réflexe même dans la rue de dire, bah lui là il y a ça qui va pas, elle il y a ça qui va pas?
Oui, avec l'expérience, absolument. C'est un regard de chorégraphe. Donc le premier signe d'une douleur, c'est la boiterie. Une légère boiterie illustre déjà une douleur potentielle. Et puis il est vrai que la personne qui a mal au genou, au pied, à la cheville, a une position qui va se défendre, son corps se défend, le corps se rigidifie, et cette rigidité du corps limite encore plus l'équilibre de marche. Donc la douleur hypothèque l'équilibre de marche, toujours.
Parce que finalement, on pense à ce qui fait mal et on pense pas simplement à
l'esprit,
cette marche.
L'esprit, le mental est concentré à 100% sur la douleur. Donc, penser à autre chose, ça n'existe pas.
Est-ce qu'il y a des douleurs justement qui sont propres à une marche inadaptée, par exemple, douleur au niveau du talon, douleur au niveau du genou? Est-ce que assez vite, vous savez d'où vient le problème? On pourrait dire même dans certains cas, sans observer la démarche.
Le bruit des pas nous renseigne déjà assez clairement. Hein. Une marche talonnante, comme j'avais pu en entendre ce matin à la radio, une marche talonnante, elle permet d'envisager une pathologie de la pénévrose plantaire assez rapidement, ou du talon, hein, ou même la création d'entorses.
Justement, quand on se fait mal au talon, ça fait quoi au niveau des chairs, au niveau de l'os, au niveau des tendons? Qu'est-ce que ça abîme?
Ça abîme déjà le périoste de l'os, ça abîme les tendons qui passent dans l'environnement, et puis les aponévroses qui sont sous le pied. Et évidemment, c'est source d'inflammation extrêmement rapidement. Hein, parce que les traumatismes se font dans la répétition de la marche. En l'occurrence.
Hein. C'est pour ça, comme c'est quelque chose d'obligatoire, comme respirer, on va dire, les gens pensent que c'est relativement anodin. Il faut justement leur expliquer, faire de la pédagogie là-dessus pour dire ce n'est pas anodin, mais par contre, ça peut se traiter de façon assez simple dans certains cas, Jacques Alalachon.
Se traiter de façon simple, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut faire un examen clinique toujours pour être précis, hein, sur la cause de la douleur, sur la raison de la douleur, le siège de la douleur. Mais modifier un geste de marche, c'est pas compliqué, hein. C'est-à-dire que si vous avez une boiterie du côté droit, vers le côté droit du corps, vous pouvez aussi très bien, avec le port d'une canne du côté droit par exemple, vous pouvez très bien tester la canne de l'autre côté et voir comment le geste de marche va s'effectuer. Donc modifier le geste de marche, le programme de marche, c'est pas compliqué, d'autant que le confort apparaît très vite. C'est-à-dire que les patients disent toujours, mais est-ce que va falloir que j'y pense, va falloir que je pense à corriger ma marche, etc. Et je leur réponds toujours, on s'habitue très vite au confort et vous allez sentir quand vous marchez mal, et vous n'aurez pas besoin de vous concentrer. Hein. C'est la sensation du corps qui amène la sensation de l'inconfort.
Est-ce que la forme ou la taille des pieds, ça joue, ça a une incidence sur la qualité de la marche?
Pas vraiment.
C'est une idée reçue, on va le dire. Hein. Les gens qui disent j'ai trop petits pieds, des questions d'équilibre ou quoi que ce soit, finalement, tout ça sont des préjugés.
Oui, ce sont des préjugés. Ce qui compte surtout, c'est de savoir s'en servir correctement.
Jacques Alalachon, justement, du côté de ces préjugés, ces idées reçues, vous en avez notifié un certain nombre dans votre livre. Lesquels, comme ça, vous viennent à l'esprit?
Là, tout de suite, attendez, j'ai un pied plus long, par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose que j'entends quelquefois. Ou j'ai un pied. On m'a dit que j'avais le pied plat, par exemple. Et l'examen montre tout à fait le contraire, ou le pied creux. Donc, en fait, c'est l'examen qui permet de savoir exactement ce qu'il en est.
Jacques Alalachon, vous restez avec nous. On va évoquer à présent une déformation spécifique qui peut affecter la marche. Pour cela, on va partir au Congo.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Emmanuel Koutaba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de chirurgie pédiatrique au CHU de Brazzaville, maître assistant à la faculté des sciences de la santé de l'université Marianne Gwabi. Docteur Koutaba, avec vous, on va s'arrêter sur quelque chose de particulier. Il s'agit du pied beau. Tout d'abord, docteur Koutaba, est-ce que cette malformation a un caractère congénital?
Bon, il faudrait que je vous dise tout simplement qu'il y a deux courants qui se battent pour expliquer cet état de choses. Et le premier courant est celui qui déclare que c'est une malformation congénitale. Et eux, ils se basent sur une hypothèse selon laquelle, au cours de l'embryogenèse, il y a eu arrêt de développement du pied. Le deuxième courant est celui qui se dit que le pied se forme normalement, mais l'enfant étant dans l'utérus, il subit des pressions de l'utérus et c'est cette mauvaise posture qui fait que l'enfant puisse avoir des pieds qui soient mal formés. Mais en tout cas de cause, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que nous retrouvons l'enfant qui sort avec des pieds qui ne sont pas normaux.
Et cette malformation, elle se constate donc, docteur Koutaba, dès les premières heures de la vie?
C'est à partir de la 8e semaine, 14e semaine, on peut déjà en anténatal voir cette malformation.
Est-ce que c'est...
Ça se peut aussi développer, mais pour nous, c'est à la naissance.
Est-ce que c'est quelque chose de fréquent au Congo, justement, ces enfants qui naissent avec ce que l'on appelle les pieds beaux? C'est le nom commun, il y a un nom scientifique, mais en tout cas avec ce pied beau.
Oui, en fait, dans nos consultations, nous avons une fréquence assez élevée de ces enfants. Et ce que je peux dire, c'est que malheureusement pour nous, nous les voyons un peu trop tard. Donc ça nous pose exactement le problème à cause de ça.
Justement, au niveau de la prise en charge de cette déformation, de cette malformation, docteur Koutaba, on comprend avec ce que vous venez de dire. Plus c'est pris en charge tôt, mieux c'est. Qu'est-ce que vous faites exactement à ces enfants pour que leur situation s'améliore?
Je vais vous dire tout simplement que, en réalité, avant, c'était simple. On mettait des plâtres qui étaient gardés pendant un mois, 45 jours, et puis après, si cela ne tenait pas, on recourait à la chirurgie. Depuis un certain temps, depuis que je suis rentré, on a introduit une méthode simple, celle de Ponseti, qui consiste à mettre des plaques tous les 15 jours en redressant progressivement le pied. Donc on a introduit nous aussi la prise en charge par le kiné, ensemble avec les orthopédistes, et c'est ce qu'on est en train de faire. Mais lorsque nous avons un pied qui est déjà plus avancé, et suite au problème d'abandon du traitement qu'on connaît souvent, on est obligé de recourir à la chirurgie d'emblée.
Parce que ça veut dire que la déformation peut revenir si le traitement n'est pas fait ou suivi correctement, docteur Koutaba.
Effectivement, le grand problème, c'est celui-là. Si le traitement n'a pas été fait, le pied restera tel quel, ce qui entraîne un handicap très important pour l'enfant. Ou alors, il est pris en charge et on peut avoir les possibilités de redresser le pied.
Docteur Emmanuel Koutaba, dernière question hein, qui est assez large. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre pratique au Congo-Brazzaville et comment, quelles pistes pour améliorer la situation?
Voilà, il y a vraiment beaucoup de problèmes qui nous embêtent. C'est d'abord le côté économique. Il faut savoir que beaucoup de gens n'ont pas assez de moyens pour se faire prendre en charge. Et il y a le manque de connaissance de la maladie. Autrement, il faudrait que je vous dise que jusqu'à il y a quelques années, elle était considérée comme une malédiction et tout un tas de choses. Si bien qu'il y avait parfois des risques qui pouvaient se faire contre des enfants qui portaient cette maladie. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est plutôt beaucoup plus dans la capitale et dans les grandes villes que ceci est maintenant connu. Mais Encore faudrait-il vous dire que c'est pas tout le monde qui connaît, même si c'était dans les grandes villes, et la campagne qui pratiquement n'a pas d'informations sur la maladie. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait d'abord informer la population.
Et peut-être informer les sages-femmes aussi.
Exactement, exactement. En fait, les professionnels de la santé en nombre. Parce que parfois, il nous arrive de recevoir des cas où c'est un spécialiste qui fait accoucher l'enfant, mais lorsque l'enfant a une malformation, on entend dire des expressions « laisser l'enfant grandir, il est encore trop petit », et ainsi de suite. Et ça, ça fait retarder la prise en charge. Donc, il y a un problème d'information chez nous qui se pose et qui doit être résolu. Il y a, je peux vous dire que depuis 2013, deux situations qui se sont passées tout à fait importantes pour nous. D'abord, une prise en charge faite en partenariat avec une fondation hollandaise sur un même pied d'égalité. Et nous avons opéré à cette occasion dans la troisième ville du pays, à Delizy. Nous avons opéré plus de 500 enfants. Le programme, bien que moi je n'y fasse plus, continue. Et le traitement se fait continuellement. Il y a un deuxième programme, c'est le programme de santé communautaire. C'est la Fondation Perspectives d'Avenir qui, cette fois-ci, se déplace de département en département pour la prise en charge. Donc, on peut dire que l'État et les ONG essayent de faire quelque chose. C'est vrai, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà louable. Et si on pourrait faire mieux, ce serait une bonne chose.
Oui, ces actions concrètes pour améliorer la situation. Merci beaucoup, docteur Emmanuel Koutaba. Je rappelle que vous êtes chef du service chirurgie pédiatrique au CHU de Brazzaville au Congo. Très bonne journée à vous. Toujours avec nous en studio, Jacques Alalachan. On continue de feuilleter en votre compagnie votre livre, Bien marcher, ça s'apprend, publié chez Payot Santé. Est-ce que dans votre pratique d'ostéopathe, Jacques Alalachan, vous êtes aussi amené à prendre en charge ce type de pathologie, les pieds beaux?
Très rarement, hein, ça m'arrive.
C'est pris en amont.
Oui, c'est pris en amont en général par des chirurgiens pédiatres, justement.
Alors, pour bien marcher, il faut aussi tenir compte de ses membres supérieurs, on va dire du balancier des bras. Et ça, les gens n'en ont pas forcément conscience.
Ben parce qu'on ne leur a pas appris, surtout. Dès lors que on utilise la main, les deux mains, pour marcher, on mobilise la ceinture scapulaire et on aide le travail du pied à se faire dans la marche. Alors, l'idéal étant, grâce à la présence des deux mains, de trouver une grande légèreté de la marche. Hein, parce que marcher, c'est une chose, mais marcher avec légèreté, c'en est une autre. Surtout pour protéger les articulations.
Vous disiez tout à l'heure, parmi les mauvaises choses à faire, ne pas marcher les mains dans les poches. Qu'est-ce que ça fait concrètement, Jacques-Alain Lachan, quand on marche les mains dans les poches pour le reste du corps? Qu'est-ce que ça implique comme problème?
Cela fait perdre de la latéralité de marche. Et donc, le mouvement de marche s'étrique, comme si on marchait sur une poutre, si vous voulez. Et le mouvement du haut du corps devient un mouvement de ballon latéral, de balancier latéral, qui fait perdre la torsion du haut du corps. Dès lors, des douleurs lombaires peuvent apparaître.
Et aussi, douleurs lombaires, vous me passez la main facilement. Façon de porter, façon de marcher, façon de porter, c'est très important d'apprendre aussi à porter. Est-ce qu'il y a des conseils particuliers, surtout pour des personnes qui seraient sensibles à du dos ou des genoux, des grands conseils, on va dire des grandes règles du bien porter?
Alors, bien se porter, ça veut dire avoir une sensation de se porter. Hein, c'est-à-dire, c'est pas du tout abstrait, c'est une sensation concrète d'être porté depuis le sol par les pieds jusqu'au sommet de la tête. Pour cela, la première règle, je dirais, centrale, hein, c'est de solliciter son tonus abdominopérinéal. C'est-à-dire, c'est une précontraction musculaire, que l'on, très, très, très sensible, très fine, mais qu'on peut sentir. Dès lors que l'on recrute ce tonus abdominopérinéal, on a un équilibre postural entier, agréable et léger. Dès qu'on relâche ce tonus abdominopérinéal, en fait, le squelette se surcharge au niveau des lombaires les plus basses, hein, et la tête part en avant. Donc en fait, pour corriger l'ensemble de la posture, il suffit déjà d'avoir cette présence, assise ou debout, c'est-à-dire d'être déjà posturé sur les deux ischions quand on est assis. Et là, vous avez déjà cette sollicitation qui est vivante, très présente.
Alors, le portage du corps, ouais. Le portage maintenant du poids. Quand on a une charge à porter, ouais. Est-ce qu'il y a des choses vraiment à ne pas faire?
Vous parlez du poids de soi ou
non, du poids, un carton, des ménages, oui. Un bébé par terre qu'il faut monter ouais. Dans la poussette, oui. Enfin, des choses concrètes.
Il faut toujours se mettre dans une position de fente, un petit peu comme dans un bus ou un autobus hein, ou un métro. C'est-à-dire avoir un pied en avant, l'autre pied en arrière, toujours de la même largeur par rapport aux hanches, c'est-à-dire pas trop écarté, pas trop serré, et toujours prendre l'effort pour se pencher sur la jambe avant, le pied avant. De la sorte, c'est le pied et la jambe qui se mettent en tension. Le tenus du pied remonte vers l'abdomen, vers l'avant de l'abdomen, et ne va pas vers l'arrière du corps. Donc, cette position comme ça, en fente, est à appliquer dans toutes les situations, c'est-à-dire se pencher pour ramasser un stylo, écrire un petit mot sur une table, faire un drap, faire son lit.
Pourtant, les gens n'ont pas vraiment cette image-là. Moi, j'ai vu des dessins même un peu communs.
Déplier les genoux, mais ça ne marche pas.
Voilà, ça ne marche pas. Non. Alors, d'où viennent ces fausses idées?
Ce sont des idées qui datent.
On va dire des conseils de grand-mère, même si on adore les grand-mères.
Des vieux conseils.
Voilà. On va tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé, justement parce qu'ils attendent certains conseils. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, juste une chose. Cette notion de tenus abdominopérinéal, c'est un petit peu l'idée du... Comme sensation, c'est un peu sensation de gainage. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on est présent au niveau de ce tenus, on se sent vraiment... On sent une vitalité musculaire qui est là, hein, et qui prend tout le bassin, les hanches et le périnée.
Et qui quasiment sécurise, comme les personnes qui se mettent une ceinture pour porter,
exactement.
Justement, pour se protéger.
Exactement.
Jacques-Alain Lachand, donc comme promis, les auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et le premier de ces auditeurs, c'est Paul, qui est en ligne du Cameroun, de la ville de Bafoussam. Bonjour Paul.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute.
Ok, moi j'ai un problème là. Quand je prends le bus pour voyager, j'ai des crampes. Oui, à la descente, je ne parviens pas à marcher. Il faut attendre une trentaine de minutes avant de pouvoir me déplacer. Je ne sais pas qu'est-ce qui est à l'origine et comment je peux faire.
Quand vous prenez le bus, Paul, vous restez debout dans le bus avec justement les trépignements du véhicule ou vous êtes plutôt assis?
Non, je suis assis.
Vous êtes assis?
Oui.
Alors, votre opinion, Jacques-Alain Lachin? Peut-être d'autres questions à Paul hein, pour compléter un petit peu le tableau.
En fait, ce qui est surprenant, c'est que Paul a des difficultés en restant assis et des crampes et rien en marchant. Hein. Donc, ça veut dire que probablement, il serait souhaitable qu'il reste peut-être debout dans le bus, en position comme celle que je décrivais, avec une légère fente, de façon à faire travailler son équilibre plantaire. Mais sans avoir examiné les pieds de Paul, il m'est difficile de poser un diagnostic très clair, d'autant que les crampes ont mille et une sources. Et
moi, j'ai deux petites questions parce que je suis curieuse, Paul. Combien de temps ce trajet? Et est-ce que vous avez mal aussi quand vous êtes assis, par exemple, chez vous, devant un bureau ou à table? Est-ce que c'est propre, justement, à ces déplacements en bus?
Ce n'est que dans le bus, madame.
Bon, c'est assez mystérieux.
Donc, il faut que Paul, vous tentiez de rester assis, hein, dans la position un peu du surfeur ou du...
Plus debout, alors. Debout
voilà,
dans le bus.
Plus debout, parce que si vous n'avez aucun problème... lorsque vous marchez, au fond, ça veut dire que le être statique vous pose un problème. Hein. Et donc, le fait de voyager debout, ça va faire travailler l'équilibre plantaire, votre équilibre plantaire autrement, puisque dans un bus, de toute façon, ou un métro, on est obligé vraiment d'aller travailler la proprioception, ce qu'on appelle la proprioception, c'est la prise du sol, c'est-à-dire du sol du bus, pour ne pas tomber, hein, donc ça va lui faire comme une rééducation. Faut que Paul nous donne un retour de ce conseil dans quelques semaines.
quelques 15 jours debout dans le bus et puis vous nous mettez un message sur la page Facebook de Priorité Santé pour dire si ça va mieux. Très bonne journée à vous au Cameroun. Paul, on va partir pour le Tchad, la ville d'Abéché, où on retrouve Judita. Bonjour Judita.
Bonjour madame.
On vous écoute Judita.
Ma préoccupation est la suivante. À chaque fois que je me promène 1 à 2 kilomètres avec des chaussures à talons, je ressens des douleurs au niveau de mes pieds et parfois il y a des enflements autour également.
Et c'est juste quand vous portez des chaussures à talons, est-ce que vous marchez parfois aussi avec des talons plats ou c'est propre à ces chaussures à talons?
Un peu plat.
Et la douleur, comment qualifier, comment est-ce que vous pourriez décrire cette douleur?
Parfois, la douleur dure quelque chose de 1 heure à 2 heures.
C'est sur l'avant pied ou sur l'arrière?
Parfois, les plus intimes.
Vous avez mal à l'avant du pied ou à l'arrière du pied? Vous pouvez, hein, Jacques-Alain Lachan, poser des questions à Judita directement,
oui,
si vous voulez.
Judith, vous portez, quand vous dites j'ai mal quand je porte des chaussures à talons, c'est ça?
Oui.
Mais c'est quoi comme talon? C'est un talon de quelle hauteur à peu près? C'est genre talon aiguille?
Oui.
Ou c'est plus petit? C'est 2 cm, 3 cm, 5 cm, c'est quoi?
Non, pas quelque chose de beaucoup de centimètres, même quelque chose 1 à 2.
Ah oui, un petit talon.
Ça, pas trop long.
Donc c'est petit talon. Et vous êtes mieux donc lorsque vous marchez avec des chaussures plutôt plates?
Oui, c'est un peu plat.
Voilà, donc ça veut dire que lorsque vous mettez un talon, vous avez une mise en charge sous les têtes des métatarsiens, hein, sur l'avant-pied. Donc ça doit vous faire mal presque sous les orteils. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est plutôt de porter une chaussure avec un talon d'un côté et un appui sur la partie antérieure du pied. Essayez plutôt ce qu'on appelle les semelles compensées, c'est-à-dire une semelle souple, hein, et dont l'épaisseur s'accroît de l'avant vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle une semelle compensée. C'est ce qu'on trouve un peu sur les chaussures de sport, quoi.
Mmh.
Hein? Mais parce que les chaussures qui sont divisées entre le talon et l'avant-pied...
Avec un dénivelé.
Sans être soutenu, créent souvent une instabilité du pied. Et pour peu que le pied soit raide, ça charge vraiment les têtes métatarsiennes. Donc ça peut, et puis ça crée surtout une instabilité. Et pour les gens qui n'ont pas le pied stable, ça, ils peuvent pas marcher très très longtemps avec. Pour peu que la semelle soit rigide en plus, ça peut créer des aponévrosites plantaires. Et puis je ne sais pas comment Judita marche. Hein, donc là encore, faut être très 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 réservé. Mais Judita peut essayer ce qu'on appelle la semelle compensée déjà.
Judita, est-ce que vous avez essayé justement des chaussures de sport ou des chaussures à semelle compensée pour voir si ça s'améliorait?
Non, pas encore.
Peut-être que ça pourrait être une solution, donc
j'ai déjà essayé.
Essayez, puis voir s'il y a un mieux. De toute façon, vous pourrez marcher de façon beaucoup plus sereine. Très bonne journée à vous, Judita, au Tchad.
On nous tient au courant.
Et vous nous tenez au courant toujours. Et on prend en ligne maintenant Valentin. On reste au Tchad. Hein. On est cette fois-ci dans la capitale, à N'Djamena. Bonjour Valentin.
Bonjour docteur, bonjour à tous. Bonjour docteur, bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI.
On vous écoute Valentin.
Ok, le thème paraît très intéressant pour moi. Moi, il y a 5 heures, lors d'une match amicale.
Mm-hmm.
J'avais été blessé au niveau de la cheville. Et cela a conduit au déchirure. J'étais opéré et cela a fait deux ans. J'ai dit en face. Et puis un temps, quand je viens, je 30 minutes, je n'arrive plus à résister. Et je perds mes poids d'avant. Je dis pas comme je veux. Je n'arrive pas à dire les 45 minutes. D'autant plus que, comme d'habitude, je dis les 40 minutes, les 90 minutes, voire les 120 minutes de match.
Je vais un petit peu résumer parce que la ligne n'est pas très très bonne, Valentin. On sait qu'un match de foot, hein, c'est 90 minutes. Vous, au bout de 20 minutes, vous avez déjà mal. 45 minutes, c'est intenable. Une question, vous nous dites, j'ai été blessé à la cheville, j'ai dû être opéré. Vous souffriez de quoi précisément?
Il a eu quoi comme traumatisme?
Vous avez eu quoi comme blessure? On vous a dit, je sais pas, c'est une fracture, vous avez eu une déchirure. Qu'est-ce que vous avez eu précisément?
Oui, j'avais eu une déchirure et actuellement c'est remonté au niveau de l'isthme. Quand je cours trop, ça me bloque carrément.
Mais il a eu une fracture de quoi?
Une fracture de quelle partie? De quel os? Quel os a été touché? Excusez-moi, Valentin.
Vous disiez?
Quelle partie de votre cheville précisément, quelle os a été touchée?
J'avais pas le nom de l'os qui avait été touché, mais c'est au niveau de cheville de ma tête gauche.
Cheville gauche, c'est un petit peu imprécis. Oui. Hein. On va avoir du mal peut-être à répondre à votre question.
C'est peut-être une fracture bimaléolaire, peut-être.
Il n'y a pas.
Mais est-ce qu'il a été rééduqué, surtout après?
Est-ce qu'après l'opération, vous êtes allé voir un kinésithérapeute, un spécialiste, un praticien, un infirmier pour vous remontrer comment marcher, pour vous réapprendre après cette grave blessure?
Oui, il m'avait consulté. Avant, je marchais bien. Il n'y avait pas de problème. Les deux ans, j'ai passé bien, j'ai joué normalement. Et ça a repris effectivement. Par exemple, j'ai commencé quand il pleut, je sors dehors, seulement je marche. Mais quelques mètres après, je commence à sentir la douleur. Je suis obligé de repartir voir mon médecin. J'avais le chuté, j'ai dit, mais monsieur, là, ça ne marche pas.
Donc vous avez des douleurs non seulement quand vous faites du sport, mais également quand il y a un changement de temps, quand il pleut. Donc
peut-être une arthrose.
Vous avez peut-être
un
problème rhumatismal, une arthrose éventuellement. Vous disiez, oui. Il faudrait que j'aille reconsulter. Je pense que c'est dire que c'est la meilleure chose à faire.
Surtout, faut explorer parce que ce que décrit Valentin est assez courant. Hein, c'est-à-dire que c'est un sportif de haut niveau, on va dire ça comme ça. Il a une fracture probablement bimaléolaire. Il a été opéré, rééduqué, mais s'il n'est pas suivi, surtout s'il a des séquelles en termes d'amplitude, de flexion, extension au niveau de la cheville, ça peut pas s'arranger tout seul. Donc, faut faire un bilan ostéo-articulaire, faire un bilan, une exploration manuelle, voir comment son arrière-pied fonctionne et quelles sont ses amplitudes. Parce que s'il a pas récupéré toutes ses amplitudes, le pauvre, il a mal en très peu de temps. Hein. Et il a quel âge, Valentin?
Valentin, vous avez quel âge? Vous avez quel âge, Valentin?
J'ai 20 ans pour l'instant.
20 ans, donc vous êtes très jeune.
Il faut l'aider le plus vite possible.
Il faut faire cette rééducation vite possible pour vous sortir d'affaires parce que il n'y a pas de raison de souffrir comme ça. Donc allez consulter, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Très bonne journée à vous, Valentin Adjamena. On n'a pas encore évoqué justement quelque chose de particulier. Savoir marcher avec un tout petit, plusieurs étapes forcément, hein, quand on est enceinte, cette surcharge de poids. Et puis une fois que le bébé est là, le portage ventral, dorsal, latéral, vous avez un point de vue là-dessus?
Le portage.
Le portage du bébé, parce que ça pèse, c'est lourd.
Sous la base. En fait, il faut le porter sous le bassin. Sous le bassin, le plus proche possible de son bassin. Du bassin de la maman et éviter de le porter sous les bras si possible, parce que ça l'insécurise. Et donc quand on porte le bébé par ce qu'on appelle la base, hein, c'est-à-dire le bassin musculaire osseux articulaire, l'enfant se redresse naturellement et porte sa tête beaucoup plus facilement et il devient très vite beaucoup plus léger, hein. Le problème, c'est quand on le laisse trop souvent assoupi et mou, l'enfant pèse beaucoup plus. Donc, pour la maman, pour les parents, c'est plus difficile. Mais le porter sous la base, c'est vraiment intéressant.
Et justement, période qui préoccupe beaucoup les jeunes parents, c'est l'apprentissage de la marche chez les plus jeunes.
Oui.
Qu'est-ce que justement les petits, les bébés nous apprennent de la marche dans cette première, justement, premier épisode de verticalité? Qu'est-ce que vous observez? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui intéresse les spécialistes de la marche, Jacques-Alain Lachand?
Absolument. C'est une construction strictement individuelle. C'est-à-dire que les enfants s'apprennent apprennent à s'ériger. Ils déambulent d'abord avec leur couche, ils peuvent se déplacer en station assise, en rampant. C'est une construction qui se fait quotidiennement, hein, jusqu'à la verticalité, y compris par les chutes, y compris par le bruit. Et l'enfant s'inspire, je dirais, de la motricité de ses parents. Hein, donc toute cette motricité qu'il découvre autour de lui l'inspire. Alors les parents peuvent aussi se mettre au niveau de l'enfant, c'est-à-dire pour reprendre avec lui ses positions, hein, et puis sur un mode ludique lui montrer comment se relever, comment ramper, comment s'asseoir, et tout ça ensemble. C'est très amusant.
Bien marché, Jacques-Alain Lachand. Bien sûr, avec une préoccupation particulière pour la santé du pied, nous sommes en ligne avec Jamel Bouabi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes podologue, président de l'Union française pour la santé du pied. À l'occasion de la journée du pied, hier, vous avez organisé une action de prévention, de dépistage, et vous constatez en fait que, c'est ce que vous dites, les gens, les Français en particulier, portent une attention insuffisante à la santé de leurs pieds. Pourquoi ce constat ?
Oui, alors globalement, c'est vrai qu'hier, c'était donc la journée nationale de la santé du pied. Nous invitons donc les Français à venir montrer leurs pieds pour bénéficier de conseils de diagnostic. C'est la 16e édition, hein, donc cela fait 16 années que cette opération existe. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, ça n'a fait pas partie encore, je dirais, de la culture. Ce n'est pas un réflexe de montrer son pied. D'ailleurs, on le cache toute l'année dans des chaussures. Et j'ai coutume de dire que beaucoup de gens découvrent qu'ils ont des pieds plutôt au printemps lorsqu'il s'agit de porter des tongs, des sandales ou de partir en vacances. Cette culture santé du pied que nous essayons d'initier n'est pas encore, je dirais, à son firmament. Nous y travaillons. L'objectif, c'est que chaque personne prenne conscience que le pied est un organe de santé, comme l'est l'oreille, la vue, l'audition, un tas de choses, et que ces pieds, on en a besoin dans la vie de tous les jours, d'abord parce que c'est ce qui nous permet d'avoir la station debout érigée, c'est ce qui nous permet de nous déplacer, et ce qui nous permet d'avoir ce statut d'homme. Hein. L'homme est debout, contrairement à la plupart des animaux, on marche sur nos deux pattes. Après, il y a un autre facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est le mauvais remboursement, voire l'absence totale de remboursement, des soins au niveau du pied, c'est quelque chose que nous déplorons et que nous dénonçons. C'est une sorte d'inégalité face aux soins. Alors, si on a les moyens d'aller voir le podologue, eh bien, les gens y vont. Mais beaucoup de gens, malheureusement, hésitent ou n'ont pas en première intention ce réflexe à cause souvent donc d'une absence ou d'un mauvais remboursement.
Y compris d'ailleurs pour des profils particulièrement sensibles, Jamel Bouabib, je pense en particulier aux personnes âgées, aux seniors ou aux personnes diabétiques par exemple.
Oui, alors nous nous sommes battus pendant des années donc avec l'AFD, ce qui est devenu aujourd'hui donc la Fédération française des diabétiques, pour enfin obtenir il y a quelques années une prise en charge chez un certain nombre de patients diabétiques. C'est ce qu'on appelle donc les patients diabétiques grade 2 et grade 3. Alors tant mieux pour eux, ils bénéficient d'une consultation et d'une prise en charge de leurs soins à raison de 4 fois et 6 fois par an. Malheureusement, encore une fois, nous ne sommes pas dans la prévention puisque ces patients qui peuvent bénéficier d'une prise en charge des soins podologiques sont, je dirais, déjà presque dans l'urgence. Hein. C'est souvent des patients qui ont déjà des plaies récidivantes, des problèmes de statique, voire pour ce qu'on appelle les grades 3, des patients qui ont subi des amputations totales ou partielles ou qui ont eu des plaies au niveau du pied, qui ont mis plus de 3 mois pour cicatriser.
Dans des cas graves.
Nous sommes loin du compte. Voilà. C'est déjà les cas graves. Et les personnes âgées, n'en parlons pas, il n'existe absolument aucune prévention. Et l'on sait, par exemple, que chez les personnes âgées, les problèmes de santé du pied, les chutes, sont l'objet de nombreuses hospitalisations et de maintien à domicile, voire un certain nombre de personnes âgées ne sortent plus de chez elles parce qu'elles ne peuvent pas marcher, parce qu'elles ont mal aux pieds ou tout simplement parce qu'elles ont peur de chuter. Alors, nous réclamons depuis des années la prise en charge de consultations préventives au moins une fois par an chez certains nombres de patients, notamment les seniors, mais pas que, puisque les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, les rhumatismes inflammatoires, ne bénéficient pas non plus d'une quelconque prise en charge. Ça, c'est tout simplement scandaleux.
Merci beaucoup pour ce message, hein, Jamel Bouabib, prévention aussi pour la santé des pieds. Je rappelle que vous êtes podologue, président de l'Union française pour la santé des pieds, Jacques-Alain Lachant. Une émission de santé, pourtant on va parler pas chiffon, mais cordonnerie. Le choix des chaussures, c'est vraiment quelque chose d'important, pour non seulement pour la santé des pieds, mais aussi pour la bonne marche.
Absolument. En fait, malheureusement, le choix des chaussures se fait avec les yeux, hein, donc y a une composante esthétique, hein, et une composante de pouvoir, de séduction, qui passe par le choix. Et on interroge pas le pied. On interroge, on pose pas la question au pied pour savoir.
D'ailleurs, il y a des modèles qui vont un petit peu à contrario de la logique. Quand on pense aux tongs, par exemple,
voilà.
Même certaines personnes ne peuvent carrément pas en porter. Quand on pense aussi, tout à l'heure, notre auditrice Judita l'évoquait indirectement, les talons hauts, ça peut être une véritable souffrance pour les femmes qui les portent. Et malgré tout, la pression sociale est là.
Voilà.
Talons hauts, même si ça fait mal, on les porte. Enfin, pas moi, mais certaines les portent.
On les porte, oui. C'est vraiment une décision sociale, une décision qui passe par faut que je sois beau, belle, que je paraisse, hein, mais en fait, le questionnement du pied n'existe pas, c'est-à-dire sauf problème douloureux. Hein, c'est-à-dire que lorsque des patients ou patientes commencent à souffrir, là, ils nous posent réellement la question, et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, la réponse, elle est simple. Faut interroger le pied, mais faire un retour un peu sur ce qui a été bon comme type de chaussage. Parce que c'est vraiment une réelle conversation. C'est avec quelles chaussures vous avez été bien? Dans quel type de chaussures? Ça peut être le cuir, ça peut être l'élastique, ça peut être la semelle, ça peut être
justement,
le
cette
scratch.
Question, on a à l'esprit que l'élément fondamental, Jacques-Alain Lachance, c'est la semelle. Mmh. Est-ce qu'il n'y a que ça qui compte ou il y a d'autres contingences?
Parce qu'il n'y a pas que la semelle, il y a la tige, il y a la partie arrière, le contrefort, il y a le type de lassage, de serrage, de chaussures. Bien sûr, si certaines personnes peuvent pas marcher, les chaussures qui tiennent pas le pied, par exemple. Hein, donc, moi, j'essaye d'être cohérent dans mes réponses pour certaines patientes. En tout cas, je leur dis, si vous voulez aller en soirée avec des chaussures de type Louboutin, avec des talons hauts, il y a pas de problème si c'est une soirée. Mais puisque ça vous fait mal, pas pour aller au travail à pied.
Et justement, par rapport à ce paraître, les gens sont capables de changer leurs habitudes ou il y a encore des résistances par rapport à ça?
Il y a toujours des résistances, mais la douleur fait force de raison, évidemment. Hein, donc, quelqu'un qui souffre, qui est épuisé parce qu'il utilise mal son chaussage, va changer d'attitude. Enfin, par expérience, les patients sont plutôt...
Raisonnable,
oui.
Merci beaucoup Jacques-Alain Lachance d'avoir répondu à nos questions et à celles des auditeurs de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes ostéopathe, auteur de l'ouvrage « Bien marcher, ça s'apprend, sans conseil à l'intérieur » et c'est publié aux éditions Payot Santé. Très bonne journée à vous.
À vous aussi, au revoir.
Bulletin de santé.
On se retrouve tout de suite pour ce tour d'horizon des faits marquants de la semaine. Un bulletin de santé que j'ai le plaisir de présenter en votre compagnie. Juliette Rangeval, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Juliette, en République démocratique du Congo, deux nouveaux décès cette semaine attribués à l'épidémie de fièvre Ebola.
Deux morts, à Bikoro et Iboko. Et d'après les autorités, on a dénombré 27 décès au total au cours du mois écoulé dans le nord-ouest du pays. 27 morts pour 58 cas signalés dans la région.
Et pour la grande ville de Mbandaka, la campagne de vaccination est maintenant terminée.
Oui Caroline, fin des opérations de vaccination sur place pour les deux premiers cercles ayant eu des contacts avec les personnes infectées. Cette campagne avait été lancée le 21 mai dans la région à Kinshasa, le point avec Patient Ligodi.
Toutes les personnes ciblées à Mbandaka, à savoir les professionnels de santé, les contacts de cas confirmés et les contacts des contacts ont été vaccinés. Cependant, les ministères de la Santé et ses partenaires internationaux sont toujours en alerte dans cette ville de près d'un million d'habitants, étant donné que les mouvements de population sont fréquents entre Mbandaka et Bikoro, épicentre de l'épidémie. Les ministères de la Santé, appuyés notamment par l'Organisation mondiale de la Santé, poursuit la campagne de sensibilisation. Ce lundi, environ 50 journalistes locaux ont été formés dans les traitements d'informations sur la maladie. La semaine passée, 300 agents de santé de Mbandaka avaient été, eux, formés sur les particularités de la maladie afin de renforcer la surveillance. Considérés comme des personnes à risque, environ 300 conducteurs des taxis moto, principal moyen de transport en Mbandaka, ont bénéficié, eux, d'un programme de sensibilisation particulier. Les efforts sont fournis pour que l'épidémie soit maîtrisée et surtout ne touche pas d'autres agglomérations. À ce propos, au niveau provincial, une cartographie des zones à risque a été élaborée. Les points d'entrée et de sortie dits sensibles ont été identifiés. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
En Inde, Juliette, la ville de Kanpur est détentrice d'un triste record, celui de la ville où l'on respire l'air le plus pollué du monde.
Une ville du nord de l'Inde qui compte 3 millions d'habitants, où les maladies pulmonaires chroniques et les cancers se multiplient, y compris parmi les non-fumeurs. C'est l'OMS qui, le mois dernier, avait placé Kanpur en tête des 15 villes les plus polluées de la planète. Kanpur, connu pour son industrie du cuir, ses tanneries qui souillent les eaux du Gange et son trafic automobile avec un niveau de particules fines et plus dangereuses, 7 fois supérieures aux limites recommandées.
L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies vient tout juste de publier son rapport annuel.
Et l'on y apprend que la cocaïne, plus pure et plus accessible, circule plus densément en Europe. 98 000 saisies en 2016 contre 90 000 l'année précédente. Au sujet du cannabis, une production en hausse avec une résine importée du Maroc, plus riche en principes actifs. Les trafiquants, de leur côté, multiplient les laboratoires de transformation.
L'actualité de la santé en France, c'est d'abord cette semaine, Juliette, la forte réduction du déficit de la sécurité sociale.
Et même la perspective d'un possible excédent dès l'an prochain. Le déficit global qui devrait passer à 300 millions d'euros, loin des 2 milliards 200 millions prévus dans le budget. Du côté des explications pour cette embellie, il faut regarder du côté de la croissance, cotisations et impôts en hausse, et non la baisse structurelle des dépenses.
La psychiatrie dans l'actualité cette semaine, avec d'abord un fichier très controversé.
Des psychiatres et des associations de patients protestent contre un fichier national des personnes internées en établissement psychiatrique sans consentement. C'est en fait un décret paru le 23 mai qui autorise les traitements de données personnelles des patients ayant subi un internement d'office. Les associations dénoncent pêle-mêle les amalgames entre maladies psychiques et terrorisme, une menace pour le secret médical et le processus de soins.
Près de Rouen, dans l'ouest de la France, une action spectaculaire pour dénoncer le manque de moyens à l'hôpital psychiatrique du Rouvray.
Plusieurs agents en grève de la faim pour dénoncer une surpopulation chronique et la dégradation des conditions de travail et d'accueil. Ce mouvement a été lancé le 21 mai dernier pour réclamer 52 postes et 4 salariés grévistes avaient dû être hospitalisés en début de semaine. La directrice de l'Agence régionale de santé a engagé une médiation.
Le Comité consultatif national d'éthique se donne maintenant 3 mois pour rendre son avis sur les thèmes des états généraux de la bioéthique.
Le comité avait publié mardi son rapport de synthèse, sans prendre position, mais le texte souligne les points de tension sur les questions sociétales comme la procréation médicalement assistée, la fin de vie. À terme, ce texte doit servir de support pour rédiger le projet de loi de bioéthique du gouvernement en vue d'une adoption au premier semestre 2019.
La PMA, justement, Juliette, d'après l'Institut national d'études démographiques, un enfant sur 30 en France est conçu grâce à l'assistance médicale à la procréation.
Oui, et 3,4% des bébés seront conçus en 2018 grâce à la science. Fécondation in vitro pour 70% ou insémination artificielle. Essentiellement avec les gamètes de leurs deux parents pour 95%. Aujourd'hui, la PMA est réservée aux couples hétérosexuels en âge de procréer et dont au moins l'un des deux membres est stérile.
Et puis pour terminer, Juliette, un chiffre, hein, la France comptait 74 043, c'est très précis, 74 043 pharmaciens au 1er janvier.
Et c'est un chiffre stable d'après l'Ordre des pharmaciens, malgré la fermeture de 300 officines dans le pays. Un maillage territorial harmonieux avec une pharmacie pour environ 3000 habitants, ce qui place la France dans la moyenne européenne. Des pharmaciens qui, en moyenne, eux, ont 46 ans et demi.
Merci beaucoup, Juliette Rangeval, et à bientôt pour un nouveau bulletin de santé. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise votre émission. C'est tout ça, Maquée, Ophélie Lassène, Didier Bleu aujourd'hui. Didier Cherouz. Lundi, dans Priorité Santé, nous parlerons des traitements dermatologiques au laser. Pour vos questions, vos témoignages, notre numéro, le 33 84 22 75 75. Et vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur l'application Plus Radio, sur le site internet rfi.fr, la rubrique Émission. On se retrouve lundi.
Et Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.